Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Une émission où on analyse l'actualité régionale, nationale et internationale. Et bien sûr, comme le titre de l'émission le dit si bien, qu'en pensez-vous? On va dire ce qu'on en pense, on va l'analyser, on va la commenter. On n'a pas nécessairement raison, mais on va amener des questionnements,
des réflexions, des points de vue.
Hein? Joanie!
Bonjour,
Joanie
Pierre!
Joanie Biendeau qui est là cette semaine pour analyser tout ça avec moi. Donc, on va réfléchir à l'actualité ensemble.
OK, quand même très occupé cette semaine.
Beaucoup de choses. Bien, en fait, pas tant de sujets, mais des sujets dont j'ai l'impression qu'on va parler beaucoup. Donc,
qui nous touchent.
Lorsqu'on
a préparé les sujets aujourd'hui, il y en a plusieurs au début. Quand t'es arrivé au bureau, on a fait pas grand-chose et on a juste ouvert nos médias locaux et on a fait ce sujet-là peut prendre la moitié de l'émission. Il y en a beaucoup à parler aujourd'hui.
Oui, clairement. Mais avant ça, on aimerait rendre hommage, parler du décès du notaire Georges Villeneuve, qui a été quand même député fédéral dans les années 50, maire de Dolbeau-Mistassini dans les années 60, un précurseur, un bâtisseur, on parle de lui dans les fondateurs du Festival du Bleuet, il a développé la ville, c'est un gars qui était très actif au niveau de sa communauté. Encore, il y a moins d'une dizaine d'années, nous on le rencontrait avec le projet de la Route des Mille et une Histoires pour ramasser en fait la tradition orale. Il y avait beaucoup de choses à raconter.
Ce qui a permis à des gens aussi de sortir du chômage avec l'installation du muret près de la chute des Pères du boulevard panoramique. C'est un homme très investi. Je ne suis pas de la région. Puis lorsque j'ai lu l'article hommage qui a été écrit par la ville de Dolbeau-Mistassini, j'ai fait waouh, c'est un homme qui s'est vraiment investi pour sa communauté à différents paliers. C'est ça qui est encore plus intéressant, autant dans le bénévolat que dans le domaine politique municipal de la politique fédérale. C'est impressionnant comme parcours.
Oui, vraiment. Et je peux vous dire que moi, je suis né ici et quand on dit le notaire Villeneuve, tout le monde sait c'est qui. Je veux dire, c'est un monsieur qui était hyper important, décédé à 97 ans. On aimerait souhaiter nos sympathies à la famille.
Un
moment aussi là pour réfléchir à ces gens-là qui sont investis, qui ont développé notre milieu, qui sont des bâtisseurs. Je pense qu'il faut lui rendre hommage et c'est ce qu'on fait à notre manière ce matin.
Oui.
Et voilà, ceci étant dit, on va s'en aller à la semaine de la persévérance scolaire. C'est cette semaine, ça?
Oui, bien c'est lors de la diffusion de l'émission, ça va être la fin de la semaine de la persévérance scolaire avec son fabuleux porte-parole qui a été très bien sélectionné, qui est M. Laurent Duvernay-Tardif, qui est un des gagnants du Super Bowl, qui est quand même un surhomme selon moi. Quand même, il est médecin et joueur de football.
Ça t'arrive dans la vie, mais des fois tu vois des gens et tu fais... ils ont tout dans la vie, on cherche des défauts, on est pas capable d'en trouver.
Ils ont tout dans la vie,
il est sympathique,
il est fort,
brillant.
On sait pas qu'est-ce qu'il a sacrifié dans sa vie.
Oui, c'est vrai, t'as parfaitement raison.
On sait pas ce qu'il a sacrifié dans sa vie pour atteindre ses rêves, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il les a atteints, puis que ça, c'est un exemple. Et je trouve que c'est un bel exemple de persévérance scolaire, parce que, à ce que j'ai compris de son parcours, ce qui l'a amené à continuer ses études, c'est vraiment son désir du sport, c'est le fait que les deux se balançaient ensemble, puis qu'il a été encouragé par sa famille, puis par les membres, puis par le réseau scolaire, à continuer. Je ne sais pas si c'était un grand décrocheur, mais le fait de marier ça avec une passion, bien, ça l'a vraiment porté à réussir deux carrières quand même très intéressantes, parce qu'il commence sa carrière d'urgentologue.
Ouais.
Ben, c'est très intéressant. Puis la persévérance scolaire, tout de même, c'est un problème majeur au Québec qui est en train de se résorber, mais très lentement. Dans un système qui est malade présentement, on va en parler un peu plus tard dans l'émission, mais toutes les actions qui sont faites dans nos communautés, que ce soit par la commission scolaire, mais aussi, par exemple, des œuvres comme le Lyon...
Le centre de service.
Oui, le centre de service, oui, nous en parlerons tout à l'heure. Que ce soit par le nouveau centre de service ou par des fondations ou des organismes communautaires, ou même j'ai vu à travers le Québec des demi-marathons, des marathons qui finançaient des activités pour la persévérance scolaire. Le Québec tient à ces jeunes, mais tient à ces jeunes qui réussissent et qui les poussent à réussir selon leur intérêt. Mon conjoint est un ancien décrocheur. Et lui, il a décroché, il s'est demandé à quoi ça servait Pythagore, à quoi ça y sert d'apprendre Pythagore. Mais ce qui est arrivé, c'est que quand mon conjoint est retourné aux études dernièrement, faire son DEP, Il est soudeur. Mais là, il a compris que les attaches de remorque, ça lui permettait de calculer exactement la longueur, plus de pertes et autres. Donc, il y a toujours un lien à faire. Le plus dur pour les personnes qui sont à risque de décrochage, c'est de trouver le lien qui va les motiver. Alors, si vous connaissez quelqu'un, peu importe son âge, parce qu'on parle souvent des jeunes, mais il y a beaucoup de jeunes qui retournent aux études ou qui font un changement de carrière ou qui veulent apprendre ou qui ne savent pas par où commencer. Bien, les accompagner, les encourager, leur démontrer que tout ce qu'ils font, c'est dans leur intérêt, puis qu'ils sont encouragés, qu'ils doivent être fiers de ce parcours-là. Car j'ai rencontré dernièrement un homme de 65 ans qui finissait son secondaire 5. Il s'en va proche de sa retraite, mais il voulait le faire.
Oui, oui. Par défi personnel,
bien, encouragez-les. C'est des preuves. C'est tout qu'un effort. On choisit pas le décrochage scolaire. Surtout dans un milieu de pénurie de main-d'œuvre, où on peut avoir beaucoup de difficultés à trouver de la main-d'œuvre. Ça peut être tentant pour des employeurs de dire, quitte les cas, je vais te garder. Mais le CREPA, au niveau local et régional, a quand même fait cette semaine, a dévoilé les employeurs, j'aime mon boss ouais. Est le meilleur. Ben, c'est ça. Hein. Peu importe les acteurs autour des décrocheurs potentiels ou des étudiants, peuvent aider, ils peuvent accommoder afin qu'on ait une jeunesse intéressée, curieuse. Parce que c'est ça aussi, là. Des fois, on ne trouve pas la curiosité, on ne trouve pas la chose qui nous attire pour rester curieux puis aller chercher ouais. plus d'informations.
Là-dessus, je tiens à rajouter quelques petits menus détails.
Oui.
C'était démontré, hein, vraiment, que les gens qui ont des diplômes ont plus de facilité techniquement à plein de niveaux là, dans oui. la vie. Donc, persévérer pour ça, c'est une bonne idée. Et moi, ce que j'aime quand tu parles de changement de carrière, de ne pas savoir ce qu'on veut, donnez-vous le droit à l'erreur.
Oui!
Parce que à 17 ans, là, mettons, rentrer au cégep, savoir ce que tu veux faire dans la vie, là, c'est beaucoup. Là. T'as même pas le droit d'acheter de l'alcool, de la drogue, t'as pas le droit de faire plein, d'aller voter, etc.
T'as jamais habité à l'extérieur de la maison.
Non, mais on te demande de savoir ce que tu veux faire dans la vie. D'ailleurs, les statistiques nous le démontrent. Par exemple, au cégep, puisqu'on va parler d'un parcours atypique, c'est donc, si je suis dans un pré-universitaire, normalement, il faut que je le fasse en 2 ans, donc ça, c'est typique. Et atypique, c'est que je vais le faire en 3 ans, je vais changer de programme, etc. Aujourd'hui, les parcours atypiques, ce sont les parcours typiques parce que plus de 70%, mais oui, ils sont majoritaires. Les jeunes ont le droit de changer d'idée, de se poser des questions. J'ai un ami, moi, ça a pris 5 ans à faire son cégep parce qu'il était pas là, il savait pas trop. Puis aujourd'hui, ben, c'est un actif pour la société à plein niveau. Je le nommerai pas, là, parce que c'est pas toujours glorieux
mais
de
moi,
savoir que t'as fait ton
moi,
cégep.
Moi, ce que je peux dire, ouais. c'est que je lève la main. Ça m'a pris 3 ans. J'ai fait 2 DEC séparément, 2 cégeps complètement. J'ai arrêté les études pendant 2 ans avant de me rendre à l'université. Puis encore aujourd'hui, à 31 ans, je me demande, est-ce que je retourne aux études? Mmh. Parce que si on calcule combien de temps dans notre vie on a, là, qu'on a sur le marché du travail et de l'intérêt, savais-tu que quelqu'un qui ferait des études dans quelque chose qui le passionne pourrait faire 4 doctorats en partant du bac? Si on calcule le temps. Mmh. C'est normal, on évolue, on change, le monde évolue autour de nous. Donc, quand on parle de la persévérance scolaire, il y a ceux qui aiment l'école, mais il y a ceux qui ont le potentiel d'aimer l'école, mais qui n'ont pas trouvé ce qui les accroche. Moi, ouais. j'ai retourné aux études parce que j'étais plus motivée. J'étais allée travailler dans le domaine automobile en location de camions, puis j'ai fini par travailler avec... J'étais responsable de la logistique du Montréal en lumière, des Francofolies, puis juste pour rire. Donc, je m'occupais de la logistique de camion, mais j'ai rencontré des gens qui géraient les spectacles et autres, et j'ai dit, j'ai le goût d'y aller. Et en rentrant à l'université, moi qui est quand même pas une décrocheuse parce que j'avais des mauvaises notes, mais une décrocheuse parce que j'avais plus d'intérêt. J'avais plus d'intérêt. Ben, quand c'est rendu que tu te lèves le matin puis tu dis, je file pas. Me semble que j'ai le goût d'aller à mon cours. Me semble que j'ai le goût d'apprendre plus dans quelque chose qui m'intéresse. Mmh. Quand je rencontre des décrocheurs, de mon entourage, je leur dis, c'est un bout de plate à passer. Mais quand tu vas trouver ce que t'aimes, tu vas avoir hâte d'aller à l'école, je te le promets. Et okay. c'est dur, ça prend du temps. Mais quand on arrive là, on est tellement content que toutes les universitaires qui ont travaillé, sûrement des techniciens, toutes personnes qui ont réussi à trouver leur branche à l'école, là, on s'ennuie des bancs d'école. Et je vous jure, on s'ennuie d'apprendre, on s'ennuie d'être curieux, on s'ennuie d'aller chercher cette information-là. Oui. C'est dur de se rendre là. Mais une fois qu'on est rendu là,
il y a aussi
on adore ça.
Quelque chose, j'ai l'impression, puis je ne sais pas si c'est générationnel ou c'est... Mais je ne parle pas de générationnel, mettre les générations, là, mm-hmm. mais de dire, dans l'époque d'aujourd'hui, on dirait que tout va vite et tout faut qu'il soit facile. Mais la réalité, c'est la loi de l'effort. Plus tu vas faire des efforts, plus la réussite est dans la persévérance scolaire. Il y a ça aussi. Apprendre à faire des efforts pour voir les résultats que ça va te donner.
Mais avant même l'effort, il y a la curiosité. Parce que, oui, il y a l'effort de chercher l'information, puis avec Wikipédia, mais si l'effort est trop facile, t'es plus curieux, tu dis « Ah, je vais trouver l'information. » Mais c'est pour ça que la curiosité doit être apportée. Puis quand on dit la curiosité, c'est par exemple un enfant qui dit « C'est quoi une étoile? » Au lieu de dire « Ben, c'est une boule. » Je sais pas, allons à la bibliothèque. Je sais pas, allons regarder sur Internet. Cherche, qu'est-ce que tu... Trouver les mots, aller chercher la curiosité, la créativité, parce que la curiosité, c'est de la créativité. Comment je vais trouver mon information? C'est très important. Puis, on parle souvent des jeunes, mais je tiens à le dire, à tout âge, d'entretenir cette curiosité-là. Ça nous permet de donner des opinions à une émission de télé locale.
Non, mais c'est vrai, t'es partie d'une décrocheuse, puis maintenant, t'es une vedette de la télé.
Vedette.
Ce que je veux dire, c'est des fois, quand on a des rêves, puis qu'on est prêt à mettre de l'énergie, du temps, et puis que quelque chose nous anime, faire de l'effort. Tu sais, moi, je dis souvent, mon travail, moi, c'est que du plaisir. Je travaille pas, j'ai du plaisir à le faire, donc je suis jamais en train de me dire... jamais le même sentiment que quand je passe la balayeuse.
C'est quand que la paye arrive.
Non, c'est ça. Puis je connais des gens, des fois, qui sont malheureux dans leur travail, mais c'est normal. Quand tu passes 40 heures semaine dans un travail que t'aimes pas, c'est sûr que tu dois compter les dodos avant la retraite. Mais je pense que c'est pas ça qu'il faut encourager. C'est pas nécessairement juste d'avoir une job, mais de s'accomplir à travers son processus d'apprentissage et de travail.
Ben, c'est l'épanouissement personnel. Mm-hmm. Il y en a qui peuvent s'épanouir dans leur travail, ce qu'on souhaite tous. Mais j'ai vu aussi des gens qui ne s'épanouissaient pas dans leur milieu de travail parce qu'ils n'aimaient pas ça, les bancs d'école. Ils sont allés chercher ce qui s'intéressait, mais ils sont allés s'épanouir ailleurs. Mm-hmm. Puis c'est tout à fait correct. Il y a une citation d'un livre, un petit livre, là, psy facile.
Psychopop.
De Psychopop, que j'ai beaucoup aimé. C'est deux personnages qui se parlent, puis il y en a un qui dit « Si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, puis qui gagne de l'argent, si tu fais quelque chose que tu aimes, puis qui gagne de l'argent, tant mieux! » Mais si tu fais quelque chose que t'aimes, mais que tu gagnes pas d'argent, oh non, tu vas devoir faire ce que t'aimes plus longtemps. C'est longtemps si tu fais quelque chose que t'aimes pas, même si ça rapporte de l'argent.
Non, puis c'est ça. Puis des fois, il faut réfléchir à ça. Moi, dernière petite anecdote dans ce sujet là, mais j'ai un ami qui moi avait une job qui l'adorait. Mais il était très bon parce qu'il adorait son travail. Mm-hmm. Et à un moment donné, une autre entreprise est venue le recruter et il a offert 3 fois le salaire qu'il faisait. Et il a fait, 3 fois, oui, OK, j'y vais. Et il dit que c'est la pire décision de sa vie parce que dans son nouveau travail, oui, il fait de l'argent, mais il aime pas son travail. Fait que ça, c'est des choix qu'on a chacun à faire.
Mais il y a une qualité d'employeur aussi.
Oui.
Tu sais, un des avantages, je vais mettre le chapeau, ose le pays des bleuets, un des avantages qu'on a dans la région ici, c'est qu'on nos travails nous demande d'être versatiles. Mm-hmm. On n'est pas obligé, on n'est pas des ultra spécifiques, des ultra spécialisés. On est obligé de faire plein de choses. On est obligé de s'adapter, de connaître un petit peu plus dans tous les dossiers. Puis quand je dis connaître un petit peu plus, on parle pas de diplôme. Je connais bien trop de gens qui ont plein de diplômes puis qui sont pas intelligents.
Moi?
Oh, non, je dirais pas ça. Non, c'est au contraire, on peut avoir plein de connaissances, mais on n'a pas l'intelligence pour les utiliser. Mais ici, il faut de l'intelligence. Il faut savoir comment jouer, comment s'adapter, comment... Donc, quand je dis curiosité, ça a tout un lien avec ça, avec la créativité. Donc, vous avez un jeune près de vous, un jeune, un moins jeune, une personne qui dit « J'ai plus la motivation. » Ben, prenez le temps de vous asseoir avec. S'il veut s'asseoir, parlez complètement d'autre chose pour que cette personne-là se sente appréciée et afin qu'elle trouve qu'est-ce qui la motive dans son projet.
Parfait. On arrête là-dessus. Oui. Tu voulais parler du déneigement de l'Albaume-Mississauga?
Oui! Au moment où on enregistre l'émission, on est mercredi matin. Chers déneigeurs de l'Albaume-Mississauga, vous allez être surpris. Mais vous faites une belle job!
Hein, faut le dire!
Vous faites une bonne job! On a quand même eu une belle grosse poudreuse. C'est arrivé en plein milieu de la nuit. Mais autant les travailleurs autonomes qui font les cours que la rue... J'ai rien à dire dans cette petite tempête. Moi, là, ça a été ultra sécuritaire, bien déneigé. On voit que vous faites un beau travail, vous faites bien un travail. J'ai vu, moi, dans d'autres villes, des conducteurs de d'équipements de déneigement qui étaient dangereux. Non, au contraire, je me suis jamais sentie en danger à côté de vos équipements. Ça a toujours été une belle job. Donc, je tenais à vous féliciter, les gens qui travaillent à travers la MRC Marie-Chapdelaine, parce que je sais qu'il y a des commentaires pour les gens de Gérardville, d'Alpanel, dans d'autres places. Mais je tiens à vous féliciter. C'est important de souligner les bons coups.
C'est vrai. Et moi, là-dessus, je vais lancer une pierre. Mais pas aux déneigeurs, au contraire. Les déneigeurs sont là pour notre sécurité. Oui, là, des fois, ils déneigent, ils bloquent le chemin, etc. Mais les automobilistes trop pressés, là, qui envoient des doigts d'honneur et qui klaxonnent les déneigeurs, là, réalisez donc qu'ils font juste leur travail et tout ça pour la sécurité collective.
Oui.
Donc, un peu de respect, s'il vous plaît. En tout cas, moi, je le ferais pas déneiger, là. Fait que j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là.
À des gens qui travaillent à pas d'heure.
À pas d'heure.
Dans des horaires complètement
instables. Puis c'est toujours compliqué parce que t'es dans le chemin, t'es dans la route, etc.
Puis toi, faut que tu te rendes à ta machine alors que c'est pas déneigé.
Ouais, ouais. En tout cas. On a fait le tour, je veux qu'on parle maintenant du service. Bonjour, bonsoir!
Oui!
C'est quoi ça?
Ce petit service-là, ça, je l'avais vu à l'extérieur de la région, puis je suis contente que cette initiative-là soit questionnée, dans le fond, qu'on pense à l'installer ici. Vous savez, c'est une statistique qui est sortie. Une grande majorité des personnes aînées de notre territoire, les MRC Marie-Chapdelaine ou encore l'ensemble du Lac-Saint-Jean, les personnes aînées vivent de l'isolement à la maison. Très peu sont en résidence, ils vivent, mais ils restent à leur maison, ils peuvent vivre de l'isolement, souvent à cause de leurs problèmes de santé, n'ont pas de famille ou autre, ou n'ont pas d'intérêt.
Ou les enfants, ou ils sont partis à l'extérieur.
Ou n'ont juste pas d'intérêt à sortir de la maison, ce qui est tout à fait normal aussi, je peux les comprendre, je suis genre casanière aussi. Mais le bonjour, bonsoir, c'est un fonctionnement où on appelle la personne le matin. Bonjour, vous allez bien? Et la personne peut jaser. Autant que juste, oui, bonjour, merci, je vais passer une bonne journée.
Ouais.
Mais ça permet d'avoir une interaction, mais aussi de détecter si une personne est en détresse.
Elle vit de la solitude.
Mais pas seulement la détresse psychologique, parce que le bonjour, bonsoir, c'est juste une occasion de parler. Mais c'est aussi, si la personne, elle t'a répondu le matin, puis elle t'a pas dit, ah, je m'en vais dans ma journée, puis elle répond pas le soir.
Oui.
Ben, t'es capable d'envoyer la police pour s'assurer que la personne est en santé puis que tout est correct.
Tout est beau, hein.
Parce que c'est quand même des personnes aînées qui, les chutes peuvent être très dangereuses. Donc, c'est un super de beau projet. Bien sûr, c'est centre d'action bénévole. Ça veut dire qu'il faut des bénévoles.
Oui.
Alors, si vous avez un intérêt...
Mais il me semble que c'est agréable de parler aux gens au téléphone.
Ben oui! Tu sais, c'est le fun. Tu commences ta journée le matin, tu demandes des nouvelles au monde, puis tu finis ta journée en disant « Avez-vous passé une belle journée? » Puis tu jases, puis des fois aussi, je suis sûre que ça va arriver qu'à force de jaser, on développe une complicité avec les personnes au téléphone, puis dire « Ah, mais savez-vous que telle date, il y a le café des générations, de part ensemble à telle affaire, ou il y a un nouveau projet. » Donc, tu sais, on est capable de garder une interaction.
Les gens qui souffrent d'isolement à devenir bénévole. Comme ça, tu fais une pierre deux coups, tu sors de ton isolement, puis t'aides des gens à pas rester dans leur isolement.
Non, c'est ça. Puis c'est pas... on s'entend, c'est pas quelque chose de très exigeant physiquement. Ça peut être exigeant mentalement, mais à ce moment-là, on repère les personnes, puis on adapte le bénévole qui est en lien avec ça.
Oui, puis on va envoyer ça aux bonnes ressources aussi.
Aux bonnes ressources, c'est ça.
On n'a pas tous les outils pour régler tous les problèmes.
C'est ça. Puis je sais qu'il y a un projet, mais plutôt, c'est une réflexion qui a été faite auprès de la MRC pour les personnes aînées vivant de l'isolement. Il y a un groupe de personnes dans nos communautés qui font le tour des maisons au moins une fois par année. Qui, selon toi? Qui viennent dans toutes les maisons, sont obligés, ils rentrent dans les maisons à chaque année, une fois par année.
Monsieur le curé pour la dîme?
Non. Les préventionnistes incendies.
Oui, c'est vrai.
Les préventionnistes incendies.
Mais est-ce que c'est à toutes les années? C'est pas aux deux ans? Bon, en tout cas, peu importe, là, mais
de toute façon, c'est... Tout dépend de la situation, mais je pense que ça peut être une belle idée de demander aux préventionnistes de cibler les personnes qui sont à risque d'isolement. Ils rentrent dans la maison.
Oui.
Tant que ça peut être...
Ils peuvent aller chercher des informations.
Ils peuvent aller ou donner des informations aux personnes qui vivent de l'isolement. Pas tant intervenir, parce que c'est pas tant leur travail, mais c'est à leur discrétion. Il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres. Mais ça permet de cibler les personnes qui vivent de l'isolement à la maison.
Génial!
En France, ils le font déjà avec des facteurs. Ouais. Ces facteurs, ils passent à tous les jours, puis ils prennent un café chez la personne pour jaser.
Il n'y a plus personne qui a une boîte aux lettres. Sauf que moi, dans mon rang, on continue le combat, les boîtes aux lettres. Bon, là, on va s'en aller d'un sujet qui risque d'amener beaucoup de commentaires, là.
Mais
je vous le dis, là, il est nécessaire, puis on réfléchit à voix haute. On n'a pas nécessairement raison, parce que peut-être qu'on va... Les gens qui vont être...
C'est un échange de points de vue.
Ouais.
On parle pas de recherche scientifique ou de chiffré. On parle plutôt de points de vue. Ce qui veut dire que faut en parler, faut débattre intelligemment. Ce qui veut dire que Il n'y a pas de personne qui a tort ou qui a raison tant qu'il n'y a pas de système de justice qui embarque là-dedans.
Ouais.
Mais il faut d'ailleurs, quand même en discuter parce que c'est une réflexion de société qu'il faut se faire.
Oui. Parlons des animaux. Donc, on va parler de ce qui se passe aux zoos de Falardeau. Il y a Laura Lévesque, journaliste du Quotidien, qui a sorti une bombe là, quand même là,
oui.
Au niveau de la maltraitance, qu'il y aurait de la maltraitance, soi-disant. Là, c'est des allégations de maltraitance auprès des animaux.
C'est quand même importante. Là, c'est pas...
Il y a des affirmations assez dures. Et d'un
c'est
côté...
Comparé à, c'est de comparé aux zoos de Saint-Étienne quand même. Là, qui...
Ben oui, mais est-ce que les gens qui le comparent sont allés aux deux? Là, tu sais, il faut faire la part des
non,
choses.
Mais c'est ça quand
et
même.
Il y a le propriétaire, M. Daniel Gagnon, qui, lui... Il nie tout. En fait, je pense qu'il est tombé en bas de sa chaise. Je pense qu'il il voit pas les mêmes affaires ou il y a un autre fonctionnement. En tout cas, là, on... Mm-hmm. Lançons le débat, là. C'est bien touché, là, mais...
T'en penses quoi, toi? Avant même l'émission, on a jasé un petit peu parce qu'on se demandait est-ce qu'on va en parler ou pas, parce que c'est quand même un sujet assez polarisant,
sensible,
mais je pense que c'est important qu'on en parle. Mm. La mentalité a changé au cours des années, puis le terme zoologie, c'est de la science qui étudie les animaux.
Mmh.
On a la chance dans la région d'avoir deux zoos. On a le zoo de Falardeau, puis on a le zoo de Saint-Félicien. Le zoo de Saint-Félicien fait partie d'une association canadienne qui est inspectée régulièrement, qui a des recommandations données par des vétérinaires professionnels et qui est un organisme à but non lucratif qui a pour objectif et comme mission de la protection des animaux.
Le zoo de Saint-Félicien est un organisme à but non lucratif?
Oui.
Mon Dieu.
Oui.
Excusez, je partirai pas un autre débat.
Est un organisme à but non lucratif, donc on parle de toute une autre gestion, alors que le zoo de Falardeau est une entreprise privée.
Oui. Là, je veux mettre un bémol sur ce que tu dis. C'est que le zoo de Falardeau, à la base, c'est un refuge animal qui a eu besoin de s'appeler zoo pour pouvoir accueillir des visiteurs, mais c'est un refuge qui a sauvé beaucoup d'animaux dont plus personne ne voulait s'occuper au Canada et même à l'étranger. Donc, il les a récupérés pour tenter de leur sauver la vie. Puis ça, je sais, parce que moi, j'ai vu la naissance du zoo de Falardeau. Donc, c'est ça à la base aussi. Là. Donc, il faut faire la différence.
Cependant, le zoo de Falardeau ne fait pas partie de l'Association des zoos du Canada. Puis les zoos du Canada viennent comme avec une garantie des sécurités, le traitement des animaux, suivi des vétérinaires, des évaluations annuelles afin de se perfectionner.
C'est qu'à la base, c'est pas un zoo, c'est un refuge.
Ben c'est ça, mais quand on a le terme zoo pour la clientèle, pour les visiteurs, c'est les mêmes standards. Tu comprends? Le zoo de Saint-Félicien a comme objectif, parce qu'en plus, il est relié à l'UQAC, il est relié à différentes institutions d'enseignement, donc pour améliorer. Ben, s'améliore et suit les meilleures pratiques. Le zoo de Falardeau, ben, c'est parce qu'il a toujours été appelé zoo. C'est une des choses.
Non, tu trompes, là. Au départ, c'est un refuge animal. C'est appelé zoo quand il a commercialement voulu ouvrir pour que les gens puissent visiter parce qu'il avait besoin de ce titre-là pour que les gens puissent venir. Mmh. Sinon, on n'a pas le droit d'aller visiter un refuge animal. Il est chargé pour ça. Puis lui, il a investi tout l'argent de sa poche. Je fais l'avocat du diable parce que je connais un peu le dossier.
Moi, j'y ai jamais été. Mais il y a une chose qui m'a profondément marqué et qui m'a pas donné le goût d'y aller, qui est le contact direct avec des bébés animaux. Le fait de séparer un bébé de sa mère, qu'on soit humain ou animal, là, je trouve pas ça naturel, je trouve pas ça bon. En plus que ça cause un énorme stress à l'animal. Dans l'article, il est décrit qu'il y a des animaux qui sont morts de stress, des bébés animaux morts de stress. Puis s'il y avait un exemple qui a été donné, est-ce que ça a été avéré? Ça, je ne sais pas. Mais un exemple qui a été donné par les personnes qui ont porté les accusations, qui est que lorsqu'il n'y avait pas de poupons à faire flatter, le propriétaire a demandé à un employé d'aller chercher un bébé kangourou dans la poche de sa mère. On parle, quand c'est dans la poche, là, c'est très, très jeune. C'est trop jeune. C'est sa tête encore. Là. C'est là qu'il allait. C'est dangereux pour l'animal. Très dangereux pour l'animal. En plus d'attendre les soins, attendre pour... tu sais, laissons faire la nature. Je sais que c'était une manière de penser, mais avec les droits des animaux qui évoluent...
Laissons faire la nature. Je veux dire, je pense que M. Gagnon, son zoo, a sauvé beaucoup plus d'animaux qui auraient été probablement euthanasiés ou dans la vie, là, dans
mais est-ce qu'il est adapté
Canada,
à notre climat? Est-ce que la... Tu sais...
Non, mais je fais juste te dire ça, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi peser les pour et les contre, là.
Puis il y a une autre affaire. Il n'y a pas de noir ou blanc.
Non, c'est ça. Puis il y a une autre affaire, là. Oui, les animaux, là, je souhaite pas qu'il y ait de la cruauté animale, là. Mais moi, quand je vois quelqu'un qui s'occupe plus de son petit chien qui va habiller, etc., que de ses enfants, maintenant, je me pose des questions aussi. Moi, j'ai été élevé, peut-être que c'est pas correct, là, mais moi, j'ai été élevé d'une manière où un animal, c'est un animal, puis un être humain, c'est un être humain, puis c'est ça.
Ben moi...
C'est ça. Moi,
j'avais même pas d'animal à la maison. J'avais un chat quand j'étais plus jeune, puis on l'a jamais fait opérer. On s'est bien occupé des petits. On n'a jamais suivi de vétérinaire. Mmh. C'était un chat de gouttière qu'on a adopté. Mais maintenant, j'ai deux gros chiens. Puis mon husky, on a dépensé près de 5 000 $ pour essayer de récupérer une patte qui a fini par être amputée.
Ouais, tu vois. Dès que tu es comme ça, moi, j'aurais jamais pu faire ça. Là. Pour moi, m'amener, là...
Cet animal-là, ce chien-là, a tout un historique dans la famille. Mmh. Il y a un lien d'attachement bien particulier. Ça arrive entre ma fille et mon chien, c'est ma fille. C'est automatique. C'est automatique. J'avais pas ma fille, on n'avait pas notre enfant à ce moment-là. T'sais. J'étais capable de le faire. Mais le lien d'attachement n'est plus le même. Il y a un lien d'attachement envers un animal domestique, notre animal domestique. Lorsqu'on arrive dans un zoo, on parle quand même que le travail premier d'un zoo, c'est quand même la sensibilisation à la réalité animale. Mm-hmm. Alors, il y a toute cette réflexion-là à se demander, ben un animal, oui, il a bien beau être dans la nature, là. Mais dans nature, c'est pas normal qu'un animal se fasse attaquer par un autre de l'autre côté de la barrière. C'est pas normal que...
Au contraire, c'est normal. C'est ça, la nature.
C'est pas normal qu'un cacatoès soit laissé dehors à moins 40. Un cacatoès, ça n'a jamais vécu. C'est un oiseau tropical dont le plus froid qu'il a connu, c'est 10 degrés. C'est quand même, lorsqu'on prend en charge un animal, il faut s'assurer qu'il soit capable de tenir le climat ou d'y offrir un climat qui ressemble à celui
d'où il vient. Oui.
C'est pour ça que le zoo, sais-tu que c'est pour ça que le zoo de Saint-Félicien a décidé de se concentrer seulement sur les animaux de la Borealie à travers le monde? Parce que Borealie, là, c'est pas juste le nord du Québec. Là. La Borealie, c'est toute une ligne avec la Russie, le nord de la Chine. Donc, c'est tout... C'est un climat en particulier. Donc, c'est pour par respect de l'animal, parce que ça leur coûte moins cher. On ne se le cachera pas que d'avoir tout un système pour les girafes puis tout. Puis, ça permet de sensibiliser aux animaux de la place, surtout. C'est quand même une réalité. Je peux comprendre la réflexion de M. Gagnon.
Ben écoute, moi là, je fais l'avocat du diable,
oui.
Mais moi j'ai rencontré à plusieurs reprises M. Gagnon et je n'ai aucun doute qu'il aime la nature et les animaux, et ça là, j'en ai aucun doute. Il a sauvé de nombreux animaux, puis oui, il y en a qui sont morts, puis peut-être que les pratiques sont pas adaptées, puis il y a peut-être une réflexion à faire là-dessus, mais il faut pas oublier que la majorité des animaux qu'il a dans son zoo seraient morts s'il ne les avait pas récupérés.
La
ça, c'est une réalité.
Oui, la première chose, c'est je crois pas que M. Gagnon n'aimait pas les animaux. Ça, on va se dire, je crois pas qu'il avait une pensée 100% mercantile. Je pense pas que monsieur faisait ça juste pour l'argent. Ça coûte cher quand même entretenir des animaux exotiques.
Il a
là.
Tout investi son argent à lui. Là.
Puis c'est pour ça que je disais tout de suite qu'il y a une différence entre OBNL et une entreprise privée. Là. Lui, il porte tout ça sur ses épaules. Là. Mm-hmm. L'OBNL a le droit des subventions. Pas l'entreprise privée.
Oui, c'est vrai que l'OBNL a eu beaucoup
de subventions. A le droit des subventions, a le droit des fonds de recherche, a le droit de ramasser des dons. Il y a plein de choses.
On a le droit de charger 100$ pour faire rentrer quelqu'un. C'est beau, c'est dit.
Je ne connais pas le dossier, je ne commenterai pas. Mais il y a quand même, je crois, c'est ça que je dis, il y a pas de, c'est pas la même réalité. Là, on parle d'argent personnel qui s'investissent. Cependant, quand j'ai lu l'article, je ne connais pas M. Gagnon, mais je me demande où était la réflexion dans les dernières années sur le bien-être animal, parce que il y a aussi mourir dans la dignité.
Parce oui, qu'un mais animal... ça, c'est pour les êtres humains, là.
Oui, mais même un animal!
Ben écoute, on peut-tu aller faire le tour des abattoirs partout aux États-Unis, au Canada? Je veux dire, là, un moment donné...
Je suis dans le même sens que...
Moi, un animal, ça se mange. Un animal, c'est un animal. Là, je
mais un animal, excusez, plate, mais dans un animal dans un abattoir va pas mourir par le stress, puis il va mourir sans douleur très rapidement.
Ça fait longtemps que t'as pas été dans un abattoir. Quand on te met là, 25 cochons d'un pressoir là, pour les tuer... Va te dire que fais-moi pas croire qu'il n'y a pas de souffrance.
Beaucoup plus rapidement que de souffrir dans son enclos.
Oui, mais probablement qu'il n'aurait pas survécu s'il ne serait pas ramassé dans cet enclos-là. parce qu'il aurait été mort, abandonné, euthanasié, sinon. C'est ça que je dis, moi. Je veux dire, il faut peser dans la balance les pour, les contre. Pis...
Il y a des frais à l'euthanasie puis à l'entretien d'un animal exotique, d'accord. Mais il y a des frais aussi éthiques qu'il faut se poser la question. Puis l'éthique, ça évolue. Ouais. L'éthique évolue. C'est pour ça que je me pose la question, où était cette évolution dans les dernières années aux autres Falardo? Est-ce qu'il y a eu, moi, quand je dis l'évolution, c'est, je pense pas que monsieur a pas évolué, mais est-ce qu'il y a eu des réflexions régulièrement sur est-ce qu'on continue ou on continue pas? C'est une question que moi je me pose parce que les commentaires qu'on a, parce qu'on a juste un article, on se cachera pas, on n'a pas eu le commentaire de monsieur Gagnon.
Il y a une enquête qui est ouverte, on aura plus de détails.
On réfléchit tout haut. Mais est-ce qu'il y a eu cette réflexion-là et pourquoi ça a continué? S'il y a eu la réflexion sur comment on peut améliorer, bien, qu'est-ce qui a fait que ça s'est pas fait? C'est ce que je me pose comme question parce que je me dis, les propriétaires de refuges doivent... Si c'est le deuxième en moins de deux ans qu'on a des informations comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a une réalité des propriétaires qu'il faut prendre en compte pour les aider à traverser ça aussi, là. Mais moi, pour moi, le plus important, c'est est-ce que la réflexion a été faite ou on a pris pour acquis que ça restait comme ça?
Ben là, il faut pousser plus loin. Oui. Moi, je veux juste un peu faire un peu le contrepoids, parce que là, j'entends beaucoup d'affaires, puis c'est correct, mais il y a aussi d'un autre côté à ça.
On peut pas mettre 5 000 $ sur tous les animaux d'un refuge. Moi, je l'ai fait parce que c'est mon chien. Je l'ai fait parce que j'étais capable de le faire. Mm-hmm. Mais la réflexion éthique en arrière.
Oui.
C'est le grand questionnement.
Oui, mais une réflexion éthique, c'est basé sur des valeurs. Et là, faut accepter aussi que les gens n'aient pas toujours les mêmes valeurs et c'est toujours un choix contextuel. Il faut comprendre le contexte avant de juger les choses.
Mais il faut régulièrement quand même se poser des questions sur sa propre éthique. C'est important. C'est important dans le développement de nos communautés puis dans le développement de nos sociétés de se poser des questions sur ma manière de voir.
Est-ce qu'elle... Éthiquement les choses, on devrait en parler au gouvernement. On devrait commencer par eux.
Parlons, moi, ça nous transfère vers un autre sujet qui est le blocage présentement du site.
Oui, on va y arriver dans quelques instants. Mais avant, on prend une pause.
Oui.
Écoutez, on en rit là, parce qu'on savait qu'on allait un peu aller dans toutes les directions. Beaucoup d'infos. Attendons. Hein. Moi, ce que je vous dis, c'est avant de poser un jugement, attendons de voir qu'est-ce que l'enquête va dire, qu'est-ce que les gens comprennent le contexte, puis après ça, ben on...
Gardez l'esprit ouvert.
Oui.
Gardez l'esprit ouvert à entendre des choses dont vous n'êtes pas d'accord.
Ça c'est la base du débat, là.
C'est la base du débat, mais c'est pas tout le monde, hein?
Oui,
c'est pas tout le monde, mais gardez ouvert que les perspectives sont différentes pour chaque personne, les regards sont différents pour chaque personne, puis la meilleure façon de trouver les terrains d'entente, c'est de les partager avec respect individuel afin que les deux côtés évoluent.
Et voilà, ceci étant dit, on se revoit dans quelques instants après la pause.
Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbo-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre, me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express.
Moi, j'ai quitté la région pour mes études. Je suis allée étudier à Trois-Rivières, puis en fait, c'est là que j'ai connu mon amie Evelyne.
Je l'ai tout de suite remarquée, la fille du lac Saint-Jean, avec plein de gens autour d'elle. Ça m'a tout de suite attirée, puis j'ai dit, cette fille-là, j'avoue, comme amie.
Ce qui m'a manqué pendant mes études, évidemment, ma famille, mais aussi des choses simples comme des paysages, des gens accueillants.
Pour moi, bien, j'ai découvert justement une vie de famille, une région où je pouvais pouvoir passer du temps avec mes amis. Moi, c'est la région qui m'a adoptée. On peut dire que je suis vraiment rendue une vraie Saguenayenne. J'ai choisi que c'était ici que j'avais envie de passer ma vie.
Télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.
On est de retour, parlant encore d'un autre sujet sensible.
Oui.
Ça fait maintenant 2 semaines, au moment où on tourne l'émission, qu'il y a un blocage ferroviaire partout au Canada.
Et en moins de 6 mois.
Oui, exactement. Là, il y a des... On peut faire un topo, là, ça devient compliqué, parce qu'on oublie un peu...
Le
sens du problème. Pourquoi il y a un blocage? Bon, il y a des conséquences qui sont dramatiques là, au niveau économique, au niveau du transport, au niveau des entrepreneurs. Il y a beaucoup ça, mais avant de juger ça, on doit essayer de comprendre le problème, d'un. Et de deux, parce qu'il y a des gens qui disent, ben, pourquoi, tu sais,
pourquoi on n'a pas voyagé assez? Pourquoi on n'a pas vendu la Sûreté du Québec?
Parce qu'on est dans un état de droit, parce qu'on a...
Parce qu'il y a une loi.
Puis on a même l'injonction, elle est là. Et donc, pourquoi on ne la fait pas appliquer? Là, on voit un gouvernement qui ne veut pas de drame, comme il y a eu à Oka, entre autres, là,
qui est frileux d'intervenir, même qui a arrêté une série de voyages internationaux, de politique internationale pour venir intervenir.
Donc, oui. Bien, parce qu'il s'entend aussi, mais ça, c'est... En tout cas, c'est de la petite politique, là, tant qu'à moi. Là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des gens d'un côté, Parti conservateur, qui disent, là, envoyez la police, puis on enlève ça de là, puis la méthode dure. Il y a des gens qui disent, ben non, faut négocier, faut essayer de comprendre. Je sais pas si vous savez, là, mais si on mettait tous les communautés autochtones ensemble et qu'on formait un pays, ce serait un des 30 pays les plus pauvres au monde. Et pourtant, ils sont dans un des pays les plus riches du monde. Donc, eux, ils ont le droit de se poser des questions. Pourquoi vous investissez autant pour passer un pipeline quand on n'est pas capable d'avoir de l'eau courante? Il y a des questions qu'ils ont le droit de se poser puis de demander. Maintenant, est-ce que ça justifie un blocage? Si ça fait 50 ans que tu dis la même affaire, à un moment donné, tu vas poser des actions. Est-ce que c'est les bonnes actions? J'imagine que... Ben, en tout cas, on voit que ça a un effet là, parce que là, on parle que de ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, ça devient complexe parce que là, il faut dialoguer. Puis il faut comprendre aussi c'est quoi la différence entre un conseil de bande puis les chefs ancestraux. Parce qu'il y a un pouvoir ancestral. Conseil de bande, c'est une organisation politique qu'on a voulu créer à l'occidental.
Puis en plus, il y a l'Association des Autochtones du Canada.
Ouais. Qui, même là, sont pas d'accord.
Les
chefs ancestraux. Et bon, il y a une autre chose aussi qu'il faut savoir. Il y a une partie de ce territoire-là qui est un territoire non cédé. Mm-hmm. Fait que il appartient aux Autochtones, donc ils ont le droit aussi de décider ce qui va se passer là. C'est comme sur votre terrain chez vous, s'il passe de quoi dessus, j'estime que vous allez accepter le fait que vous allez pouvoir décider et dire si vous n'êtes pas content. Là.
Oui, puis si, par exemple, comme dans leur cas, il y a une voie ferrée, mais ils ne sont plus d'accord de ce qui se passe dessus ou qu'il y a un abus de ce droit-là, bien, c'est normal qu'on intervienne. Est-ce que le blocage des voies ferrées, parce que ça, c'est une erreur de français, on dit un blocus, mais non, c'est un blocage. J'aime beaucoup écouter...
Bravo. Guy Bertrand.
La Guy Bertrand.
Ouais.
Mais il y a toute cette... je connais pas le fond du dossier, mais... Je connais pas le fond du dossier, mais ce que je sais, c'est que si différentes communautés autochtones qui soient touchées directement ou indirectement commencent à faire des blocages, c'est que le problème ne touche pas seulement la communauté en question qui est touchée par le problème, mais bien par la manière de penser face à nos relations avec les Autochtones.
Oui, clairement. Puis là, on le voit très bien. Là, il y a deux côtés. Il y a des gens qui disent, ben, il faut les encourager pour leurs droits, pour qu'ils puissent en fait pouvoir vivre dignement, et aussi toute la problématique environnementale. Et de l'autre côté, ben, il y a tous ceux qui c'est la sacro-sainte économie, ouais, la loi et l'économie là. Puis, je veux dire, c'est pas qui a raison, qui a tort. Je pense que c'est un ensemble de problématiques qu'il faut mettre ensemble. Un dialogue, là, c'est mettre ça ensemble.
Comme on s'est parlé avant la pause. L'importance de se parler, de se parler, d'échanger afin d'évoluer ensemble. Moi, ce que j'entends, ce que je vois surtout dans les propos extrémistes, c'est que j'ai tort, J'ai raison, ils ont tort.
Ouais.
Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de zone grise.
Et ça, je pense que c'est une erreur.
C'est une erreur majeure, flagrante. J'espère que ce n'est pas le cas, mais que c'est nos médias qui nous expriment ça. Ben, ça peut
non, mais c'est
aussi,
très
mais
polarisé. C'est on a vu un retour, en fait, du racisme qui ne se gêne pas envers les autochtones.
Ah non, non, moi, il y a des affaires. Je ne suis pas autochtone. Je ne suis pas une experte là-dedans. Je côtoie des gens d'origine autochtone, mais c'est eux les mieux placés pour expliquer leur situation. Mais, ah, les autochtones ne payent pas de taxes. Non. Ils abusent. Non. Renseignez-vous. Prenez le temps, là. En plus... Au Lac-Saint-Jean, nous avons la chance d'avoir Mastoyach.
Oui.
C'est pas loin.
Une superbe communauté.
Une superbe communauté, bien organisée, accueillante, avec trois institutions culturelles qui nous permettent d'aller chercher de l'information. Dites-moi pas, je sais tout, si t'as pas visité ou discuté avec une personne d'autochtone.
Compris l'histoire aussi, hein, parce que...
On
n'a pas été très, très cool. Là.
On n'a pas été très, très cool, puis on n'en parle pas d'eux autres dans nos livres d'histoire. Ou dans nos cours d'histoire, on ne parle pas de la réalité autochtone. On est arrivé, puis maintenant, il y a toute qu'une histoire là autour. Mais j'aimerais ça que... Je sais pas, est-ce que toi, t'es au courant quelle est l'origine du blocage ferroviaire? J'aimerais ça l'apprendre.
Bien, en fait, c'est un support aux communautés. Un, ça se passe à la base en Colombie-Britannique. Et là, on a dit... Bon, premièrement, il faut comprendre. Le conseil de bande a accepté le projet. Mais les chefs ancestraux qui sont...
Les leaders sociaux.
Oui, et qui sont votés historiquement par les femmes. Tu sais, c'est une autre manière de faire, là. Eux sont contre, ont décidé de manifester, de bloquer. Et par solidarité, à Belleville, en Ontario, ici au Québec... Oui, ont décidé d'emboîter le pas pour mettre de la pression. Parce que on le sait bien, hein, les gouvernements là, puis les compagnies là, ils feront rien si on touche pas à leur portefeuille. Et là, on est en train de toucher au portefeuille de beaucoup de monde, puis c'est dommage. Mais en même temps, ça devient souvent la seule manière de faire les choses. Et le droit de manifester au Canada, il est reconnu là. C'est dans la Constitution. Oui. Maintenant, le blocus ou le blocage.
Mais ça fait combien de temps que cette problématique-là est discutée dans les communautés?
En fait, il faut comprendre qu'il y a même un débat à l'intérieur des communautés entre les chefs ancestraux et les conseils de banque.
Mais depuis combien de temps?
Oh.
Depuis des années,
ben oui.
Depuis des dizaines d'années. Donc, il faut se dire que tous les moyens de pression, les grèves ou autres, là, les gens ne commencent pas directement avec une grève ou un blocage. Là. Ça va en croissant. On entend parler du blocage. Mais dites-vous que ces problématiques-là, ils viennent de... Ça a sûrement commencé par une pétition. Ça a sûrement commencé par des assemblées de cuisine, par des discussions de sensibilisation, par des débats publics, par une lettre au président du CN. Ça a commencé vraiment lentement. Quand c'est rendu au blocage, là, c'est qu'ils ne se sont pas fait écouter des dernières années.
Ben, en fait, on a commencé à écouter les Autochtones, ça fait pas si longtemps. Hein. On va se dire, là, il y a eu des pensionnats jusqu'à les années 90. Ça.
Parce qu'ils ont été isolés, puis au niveau de la culture, c'est pas comme ça qu'on défend nos droits dans la culture autochtone.
Oui, ça, c'est une incompréhension aussi qu'on a beaucoup face à la culture autochtone. C'est que nous, on a une perception occidentale.
Hein. On a une culture qui fonctionne, puis la communauté autochtone a une autre culture.
Oui.
Et on est très ethnocentrique.
Ah oui, on a l'impression qu'on a toujours la vérité, que tout l'univers devrait fonctionner comme nous. Voyager un peu pour voir comment, à l'étranger, ça fonctionne différemment.
Et que l'histoire tourne
c'est
autour de l'homme blanc.
C'est pas meilleur ou moins bon, c'est différent.
Que tout tourne autour de l'homme blanc.
Oui, l'homme occidental.
Oui, de l'homme occidental. Tout tourne autour de l'homme de l'occidental. Ah, c'est le colonisateur. Non, excusez, hein, mais les Autochtones ont eu leur propre histoire et on est un grain dans leur histoire.
Oui.
Tu sais, il y a tout ça à prendre en compte. Là.
Mais qu'est-ce qu'on va faire? Politiquement, je vois que Justin Trudeau, lui, il ne sait pas quoi faire. Là. Il veut négocier. Il veut surtout pas qu'il y ait une escalade comme il y a eu à Oka, où on se rappellera le colonel ou caporal Lemay qui est décédé. Là, c'est quand même... On ne veut pas ça, là.
Non.
Mais en même temps, il va falloir à un moment donné qu'il se passe quelque chose.
Ben,
là,
déjà, le fait qu'il traite ça de nation à nation, c'est bien intéressant. Parce que qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire des manifestations d'Oka, c'est que les personnes dans le dossier... c'était un dossier au niveau canadien, mais le gouvernement fédéral a dit « Gouvernement du Québec, vous en occupez ». Mais c'est tellement important et imposant que c'est un manque de respect parce que c'est de nation à nation.
Oui.
C'est pas une province.
Là, on a
c'est
vu d'ailleurs.
C'est une nation. Donc, déjà, le fait que le gouvernement du Canada soit tout de suite impliqué au niveau des médias, je ne sais pas ça fait combien de temps, mais qu'il s'implique et ne laisse pas d'autres institutions le gérer, peut-être pas tant le gérer, mais intervenir, bien, c'est déjà, selon moi, déjà une marque un peu plus de respect. Et quand je dis intervenir, c'est pas dire prendre une décision. C'est interférer, c'est discuter, entendre les besoins de chaque côté, puis intervenir.
Trouver une solution.
Trouver une solution, faire le médiateur, oui et non, mais simplement donner un espace de discussion publique qui permet à tous les partis d'exprimer leur point de vue. Parce que là, avant même l'émission, tu m'avais apporté un bel argument aussi qu'on peut utiliser sur plein de choses, sur le zoo de Falardeau, sur GNL Québec, sur les blocages ferroviaires, qui est... C'est pas noir ou c'est pas blanc, mais il y a deux manières de voir la vie politique. Il y a le court terme, le profit, le développement de nos poches individuelles.
Oui, individualistes, ceux qui sont entrepreneurs vont souvent avoir cette optique-là, parce qu'ils veulent faire vivre... C'est normal, là, c'est pas une critique.
Les entrepreneurs.
Quand tu es entrepreneur, tu veux faire du profit. Tu veux dire, tu veux faire de l'argent.
Pour être moi-même entrepreneur, c'est plutôt...
Que,
c'est ça, on veut être capable de vivre
de
ce qu'on fait.
Normal.
Ça, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire d'avoir le profit. C'est d'être capable de vivre, de subvenir à nos besoins comme ça. Et de l'autre côté, c'est les personnes qui voient plus à long terme, qui sont prêts à quand on parle d'un développement durable, donc il y a le développement économique qui est rapide tout de suite, puis il y a le développement durable où on est prêt à sacrifier le revenu potentiel maintenant pour développer un revenu potentiel plus tard.
Oui, mais on va aussi prendre en considération le social et l'environnement dans le développement durable,
mais
c'est important.
Mais c'est pour ça que ce que je parle, c'est un développement durable, parce que...
Et collectif.
C'est ça. C'est, comment je pourrais expliquer ça de manière économiste? Il y a celui qui peut gagner 10 piastres dans ses poches tout de suite, ou celui qui va gagner 2 piastres dans ses poches, mais sur 10 ans.
Oui, au bout du compte, il va gagner plus.
Il va gagner plus, ça va être plus long, mais ça va fructifier aussi.
Hey, je vois le temps passer, mais je veux terminer pour dire que ça devient très problématique. Et même cette semaine, les provinces vont se parler sans le gouvernement fédéral, parce que les provinces ne s'entendent pas, ils veulent qu'il se passe quelque chose, mais ça rentre dans la cour du gouvernement fédéral. Fait que là, on n'est pas satisfait. On a vu une alternative, en fait, du premier ministre de la Saskatchewan qui a fait venir... qui va avoir, donc avoir un conseil des confédérations, là, donc de toutes les provinces, pour discuter, essayer de trouver des solutions.
Oui.
Parce que là, il y a une perte de patience. Allez, allons du côté, on parlait plus tôt de la persévérance scolaire. Restons dans le monde scolaire. Parlons des négociations avec les enseignants et aussi ceux qui travaillent en service de garde.
Oui.
Négociations. Moi, je veux juste, avant de pour lancer tout ça, il y a une étude qui est sortie cette semaine, qui est très pertinente, en fait, d'un chercheur de l'Université Laval, qui disait que les enseignants sont beaucoup plus susceptibles de vivre du stress, de la violence, de l'intimidation,
du harcèlement,
que, par exemple, les gens du système de la santé qui en vivent déjà beaucoup. Donc, quand on met ça dans la balance... je pense aussi qu'il y a quelque chose...
En plus, le système de santé est plus équipé pour être capable de répondre à ces besoins-là.
Exactement. Fait que les enseignants, souvent,
sont seuls.
Et je dis souvent, c'est pas dans ces négociations-là, c'est pas nécessairement une question de salaire, mais c'est une question de conditions de travail pour travailler dans un domaine qui est sécuritaire, où on peut aussi travailler. Je veux dire, moi, quand j'ai une classe de 20 élèves, j'en échappe peu. Mais quand j'ai une classe de 45, c'est sûr que je suis pas capable d'être bon pour tout le monde.
C'est ça. C'est pas tant de travailler que d'offrir les résultats attendus aussi. Puis le résultat, c'est d'accompagner adéquatement les jeunes, les élèves, les étudiants dans les programmes. Avec le changement de commission scolaire à centre de service, on vient centraliser tous les pouvoirs décisionnels auprès du ministre. Donc, tout ce qui est indépendance locale, conditions de travail, choisies par les commissaires, par les... ils ont perdu cette force-là. Mmh. Les enseignants, puis toutes les personnes travaillant dans le milieu de l'éducation, donc même le personnel non enseignant, viennent de perdre énormément de pouvoir sur leurs conditions de vie au jour le jour. Il faut toujours qu'ils passent par le ministère. Puis on voit ce que ça passe pour les infirmières. On voit ce que ça se passe pour les médecins aussi. Il faut que ça soit partout pareil, sinon ça devient trop difficile à gérer. on se retrouve dans cette situation-là au niveau des enseignants. Je ne sais pas comment ça va être réglé. Moi, déjà, mon avis, c'est pourquoi j'ai énormément de peine. Ça a été fait, ça a passé. On ne peut pas rien faire. On pourrait faire d'autres choses, mais ce n'est pas le sujet de l'émission aujourd'hui. Mais je suis le fait de l'abolition des commissions scolaires. Là. Ça me pue au nez.
Ben peut-être. Mais tu sais, moi, pour faire l'avocat du diable, là, pour des commissions scolaires comme la commission les Rives du Saguenay, où ça avait l'air d'être géré n'importe comment depuis plusieurs années,
je pense que
ça
va juste... Des pommes pourries,
il y en a partout. Oui, c'est vrai.
Mais des pommes pourries, il y en a partout. Il y en a des pommes pourries, il y en a partout. Des pommes pourries, il y en a partout. Il n'y a pas personne que la science infuse sur l'administration. Mais au lieu d'avoir... Dans le fond, au lieu d'avoir une grosse pomme pourrie. Il y avait plein de pommes, puis il y en avait quelques-unes qui étaient pourries, puis il était possible de travailler. Là, on se retrouve avec une seule place. S'il y a un verre, on est dans la marde. C'est faut le regarder comme ça, là aussi. Là.
Oui, on a fait comme avec les CIUSSS, en fait. On a centralisé en faisant croire qu'on décentralisait.
Non, c'est ça. Les CLSC, puis même avant ça, les CLSC puis les centres hospitaliers qui se sont fusionnés pour être en région, puis être en CIUSSS, puis finalement faire comme... Où sont les conditions de travail? Il faut absolument que tu passes dans les...
Dans le domaine de la santé, la perte de pouvoir qu'on a...
La perte de service, d'efficacité, de relations humaines entre le patient et le médecin. Mais est-ce que vous reconnaissez un peu le principe qu'on vit présentement, la perte de relations humaines entre l'enseignant et son étudiant? On se le cachera pas, là. On s'enligne vers ça, là. Faut faire de quoi? Faut réfléchir à notre système, là. On dit qu'on va manquer d'enfants. Oui, mais ça veut pas dire que les conditions de travail vont changer.
Non,
on se le cachera pas, là. Ils disent, il y a une diminution démographique, qu'il va avoir moins d'enfants à d'un classe. Ça veut pas dire qu'il va avoir plus de profs.
Non, puis il faut vraiment valoriser le métier d'enseignant et l'éducation, ce qu'on fait pas là, on dénigre toujours les enseignants, mais oui. Mon Dieu qu'ils font un travail difficile.
Parce qu'on parlait des enfants rois, maintenant c'est les parents rois là. C'est pas l'enfant qui reçoit une mauvaise note, c'est pas comment on va faire pour améliorer ta note, c'est non comment ça mon enfant a une mauvaise note. On parle pas de la même chose, mais je pense qu'il y a beaucoup des acteurs publics qui valorisent déjà le travail. Les différents acteurs publics, je n'ai pas vu personne qui a dit, de mon expérience personnelle, les enseignants font une job de merde. J'ai jamais vu ça. Mais entre les valoriser, puis les soutenir afin qu'ils aillent chercher des meilleures conditions de travail, c'est pas la même chose. C'est le fun, les enseignants, on les aime, puis ils font avancer nos générations, puis ils permettent d'établir la curiosité. C'est souvent le premier vecteur de persévérance scolaire, il y a plein de choses. Mais on a bien beau les encourager verbalement. Qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que citoyens, dans nos votes, dans nos discours publics? Il y a une certaine époque, là, à la fin de l'année, on donnait des cadeaux. En début d'année, on donnait une pomme à l'enseignante. Ça se fait-tu encore, ça?
En tout cas, moi, j'ai jamais eu de pomme. Là. Je lance mes étudiants, si vous m'écoutez, amenez-moi des pommes.
Le fait d'encourager puis de se dire qu'ils sont soutenus par les autres personnes entourant leurs étudiants aussi, c'est essentiel. Là, parce qu'il y a tellement de personnes dans le domaine de l'éducation qui avaient la vocation, parce qu'on ne se le cachera pas, c'est une vocation. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Même si tu as tous les diplômes, si tu n'as pas l'intelligence, la créativité puis l'amour du système scolaire, tu ne peux pas faire ça. Donc, imaginez s'il y a quelqu'un qui est épuisé après tout ça. Parce que contrairement à bien des systèmes au niveau professionnel, plus tu as d'ancienneté, plus tes classes sont faciles. Alors que c'est toi qui as l'ancienneté puis qui a les connaissances pour les classes difficiles.
L'expérience, oui.
Donc, faut vraiment être persévérant puis avoir une force de caractère.
Oui, puis tu sais, il y a une logique aussi. Quand on va investir dans l'enseignement, dans la classe, là, parce que là, il y a un manque criant de services spécialisés, tu sais.
Oui.
Et moi, quand on regarde, mettons, le modèle scandinave, entre autres en Finlande,
oui.
Ils ont deux enseignants au primaire, deux enseignants pour 20 élèves. Ce qui fait qu'il y a toujours un enseignant qui peut s'occuper des cas plus difficiles et d'aider, mais ce qui fait qu'ils ont beaucoup moins besoin de ressources en aide aux devoirs.
Souvent, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un conseiller pédagogique qu'ils peuvent rencontrer après. Là, présentement, il y a un conseiller pédagogique dans les classes, qui sont rattachés aux classes. Mais c'est un conseiller pédagogique pour une école avec douzaines de classes. Ouais, 12 profs, 40 étudiants par classe.
Ouais, mais il faut aussi que la pédagogie, ça se passe dans la classe, là. Tu sais, j'ai rien contre les conseillers pédagogiques, là, mais à un moment donné, il va falloir analyser qu'est-ce qui se passe, qu'on parle aux enseignants, qu'on regarde qu'est-ce qu'ils font, qu'on regarde le travail. Mais et si vous pensez que c'est facile,
enseignants... qu'on les écoute!
Ouais, ouais. Puis si vous pensez que c'est facile, je vous invite, venez passer une journée avec moi au cégep pour voir c'est quoi le travail d'un enseignant, puis vous allez peut-être faire « OK, OK, c'est pas si simple
que ça. » Je dirais même pas une journée, parce qu'une journée, ils vont trouver ça épuisant, mais c'est quand les étudiants s'habituent à la personne qui regarde puis qui montrent leur vraie personnalité après. Ouh!
Ouais.
C'est, y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. T'sais, c'est pas une évaluation, une journée qu'on voit la vraie personnalité des étudiants. C'est quand ils sont habitués que là, ils se laissent aller puis qu'on voit plus les défis. Moi, on a parlé beaucoup des étudiants, des enseignants, mais il y a aussi une grève qui est en cours, mais qu'on n'entend pas beaucoup parler, que je vis personnellement, c'est les services de garde.
Oui, c'est vrai.
En milieu familial.
T'as 2 minutes.
J'encourage, moi, c'est la personne responsable, elle s'appelle Sylvie Gérard, elle m'a vraiment sensibilisée à la situation. Savez-vous que les femmes et les hommes qui s'occupent des services de garde en milieu familial sont payés le salaire minimum pour s'occuper de nos enfants? De les nourrir, de s'assurer qu'ils sont en santé, de faire un suivi de leur développement, puis qu'ils tout, un salaire minimum à des heures pas possibles, là, parce que nous autres, quand on a de 8 à 5, eux autres, il faut qu'ils accueillent les enfants avant puis qu'ils accueillent les enfants après. Puis c'est fatigant, nos enfants. Imaginez, 9 qui ne sont pas les vôtres.
Non, puis si on compare, là, pour vrai, le salaire de quelqu'un qui s'occupe de nos enfants avec le salaire de quelqu'un qui s'occupe de des animaux, on revient à un autre sujet tantôt, bien, c'est le double du salaire de quelqu'un qui s'occupe des animaux. Je dis pas qu'il mérite pas son salaire, je dis juste qu'à un moment donné, on peut tu mettre nos priorités au bon endroit, là? Ben oui, ben oui.
Il y a quelqu'un qui peut augmenter, on n'est pas obligé de diminuer l'autre pour augmenter un. Donc, présentement, leur principe de grève, c'est qu'ils ont ouvert les garderies 15 minutes plus tard. À chaque fois. Donc, par exemple, moi, mon conjoint ne peut plus aller porter ma fille à la garderie le vendredi parce qu'il commence à 8h, maintenant il ouvre à 8h15. Mm-hmm. Il arrivera en retard au travail. Il demande une augmentation de salaire que je pense tout à fait raisonnable. Puis, il demande... pas plus que ça.
Ah non, puis...
Il demande une augmentation... Parce qu'ils adorent nos enfants et ils aiment nos enfants, mais ils ont besoin de vivre aussi, d'avoir une qualité de vie face à ça.
Pensez-là, là, à qui vous donnez vos enfants? Est-ce que vous trouvez que ça mérite... tu sais, quand on... Qu'est-ce que ça mérite, là, quelqu'un qui s'occupe bien de nos enfants, là? Pensez à ça, là. Vous n'avez pas d'enfants, vous dites, ça ne me regarde pas, j'ai pas d'enfants, mais là, soyez...
Dites-vous que les garderies... Je vais vous comparer deux choses. J'ai commencé avec une garderie non subventionnée. Savez-vous combien ça me coûtait par jour? 30 $ par jour pour ma fille. Il y a 9 enfants.
Ouais.
Une garderie subventionnée, elle me coûte 8,45 par jour. Subventionnée, là. Faites le calcul, là. Combien le gouvernement doit donner en différence? C'est sûrement moins que le 22$ que je donnais par enfant par jour.
Là-dessus, merci Joannie de
merci
ces
beaucoup.
Belles discussions. Désolé si on vous a choqué, mais en même temps, on veut un
c'est
peu
le,
ça. C'est susciter...
la raison de l'émission.
Ouais, c'est susciter le débat. On prend des positions différentes aussi pour vous amener à réfléchir puis à amener des points de vue différents. Donc, si vous avez des commentaires, écrivez-nous. Sinon, on vous souhaite une bonne semaine et nous, on se voit la semaine prochaine pour
avec
une nouvelle édition
Patrice.
De... Oui, avec Patrice pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne
Bye.
Semaine.
Bye.